Installer dans chaque canton des maisons de services au public qui regrouperont l'ensemble des services de l'État, des collectivités et des opérateurs comme la Poste, la CAF ou Pôle emploi. On se souvient de la proposition qu'avait faite le président de la République dans sa conférence de presse concluant le grand débat. En réponse au sentiment de déclassement exprimé par les Gilets jaunes et par de nombreux élus du monde rural, il avait expliqué qu'en matière d'emploi, de retraite, de logement, de santé, on doit pouvoir trouver réponse aux difficultés qu'on rencontre. Façon de dire que les maisons de services au public déjà existantes ne sont pas à la hauteur des attentes, qu'il faudra aller plus loin en les multipliant et surtout en leur donnant un vrai contenu. Mais qu'entend-on par service public quand des hôpitaux ferment ou des tribunaux déménagent? N'y a-t-il pas contradiction? Et que dire des écoles ou des lignes de train? Pour la Cour des comptes, contrairement à ce qu'on croit, on ne peut pas parler d'un abandon généralisé des territoires par les grands réseaux de services publics qui parfois même y sont parfois plus denses qu'ailleurs, ce qui est vrai d'un point de vue strictement quantitatif. Pour le défenseur des droits, en revanche, il y a une vraie déshérence des services publics en milieu rural qui sont les victimes d'une logique d'économie budgétaire. Alors comment rapprocher les services publics des Français et par là, comment redonner vie aux communes rurales? Pour en débattre, dans ce téléphone sonne Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. Bonjour madame.
Bonjour.
Sophie Baudin-Michel, maître de conférence en géographie à l'Université Paris-Diderot. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis en ligne dans un instant avec nous, Christine Jouanneau, directrice des affaires publiques du Défenseur des droits. Le téléphone sonne, c'est jusqu'à 20h. Vos questions, vos remarques au 01 45 24 7000 ou sur la boîte mail de l'émission.
Yves Decamp. Le téléphone sonne.
Premier auditeur qui nous appelle de Paris, c'est Jean-Marie. Bonsoir à vous Jean-Marie, bienvenue.
Non, Alexandre.
Alexandre, bon, on m'avait noté Jean-Marie. Allez-y, nous vous écoutons.
Excusez-moi. Pourquoi a-t-on bradé, cassé, saboté France Télécom, La Poste, EDF, la SNCF, les impôts et même Radio France et dématérialisé toutes ces entreprises de services publics et vendu aux plus offrants pour remettre ça en place sous forme de maison de services publics à l'heure actuelle.
Oui, c'est contradictoire, c'est ce que vous voulez nous dire. Mais Radio France n'est pas cassée, hein, n'a pas été cassée et n'a pas été encore offert aux plus offrants. Merci en tout cas, Alexandre, de votre appel, Jacqueline Gourault.
Il est vrai que pendant de nombreuses années, il y a eu diminution des services publics en France, à la campagne, dans la ruralité, parfois aussi dans certains quartiers. Et c'est la raison pour laquelle il faut remettre les services publics au plus près des territoires, en particulier dans les zones de ruralité. Il y a un mouvement qui s'est créé il y a quelques années avec la création de maisons de services au public. Vous l'avez, il y en a 1340 en France actuellement. Elles sont, vous l'avez dit, de qualité inégale. Et donc, le président de la République a voulu, en invitant, comment dire, à la création de France Service, a voulu que ces maisons de services au public soient de meilleure qualité et qu'il y ait un minimum de services, je dirais un bouquet de services minimum, pour que les Français puissent trouver réponse aux questions qu'ils se posent ou aux services dont ils ont besoin. Donc, c'est un enjeu à la fois de qualité et deuxièmement aussi de quantité, si je puis dire, puisque le président de la République a dit une par canton, c'est une au minimum. Parfois, il y en a déjà plusieurs par canton, mais il y a des endroits aussi où il n'y en a pas du tout. Donc, il faut amener les services sur les territoires.
On va revenir sur ces maisons de services publics, enfin de maisons de services au public. Mais d'abord, entre le constat comptable de la Cour des comptes qui dit les grands réseaux du service public sont là, ils sont même parfois très présents en milieu rural, voire les gendarmes ou les enseignants. Hein, la Cour des comptes cite un enseignant pour 9 enfants en Lozère, contre 5 dans certaines grandes villes. Bon, et entre cette vision donc comptable et le commentaire du défenseur des droits qui parle de déshérence, la réalité, elle est où, entre les deux?
La réalité, c'est qu'il y a différentes ruralités et qu'il faut concevoir les territoires non pas dans leur globalité, mais dans le détail. C'est pourquoi je prône, moi, toujours personnellement, pour une politique cousu-main, c'est-à-dire qu'on réponde aux problèmes là où ils se posent. Et c'est vrai qu'en Lozère, il y a un instituteur pour beaucoup moins d'élèves que, je ne sais pas, à Tours ou
dans les grandes villes.
Et eh bien, si on veut maintenir les écoles dans la ruralité, ce que fait Jean-Michel Blanquer, il faut admettre que le chiffre d'enfants ou le nombre d'enfants devant un instituteur peut être différent selon les endroits où on se trouve.
Mais ramener le service public au nombre d'habitants, c'est un peu restrictif. Hein,
La preuve, effectivement.
La quantité ne suffit pas, il faut aussi de la qualité.
Il faut aussi de la qualité.
On oublie les distances, les structures démographiques, etc. Sophie Baudet-Michel, vous avez étudié un petit peu toutes ces situations dans les villes moyennes, hein, notamment ce que vous appelez la rétraction des lits d'hôpitaux, des tribunaux, ça aussi ce sont des services publics qui disparaissent.
Oui, alors nous avons travaillé effectivement sur la rétraction des commerces et des services dans les villes petites et moyennes en France et dans l'ensemble du réseau urbain. Et nous avons étudié des villes qu'on appelle des aires urbaines, des aires fonctionnelles, donc qui englobent des territoires ruraux. Il y en a 771 en France. Et en fait, nous nous sommes intéressés à ce sujet, notamment parce qu'il y avait des travaux qui avaient été conduits par François Tollel, Courcel, Figelco, sur justement des territoires ruraux, où Mohamed Hilal, Alexandra Barzac, qui montraient qu'il y avait effectivement des fermetures d'écoles, des fermetures de gendarmerie, de perception, de maternité, de postes, mais il montrait que ces fermetures, elles avaient commencé plutôt dans les années 1990, bien après, en fait, des fermetures de commerce qui étaient arrivées auparavant. Donc finalement, les services publics semblaient avoir résisté plus longtemps que les commerces ou des services
privés. Ce n'est qu'une conséquence, ce n'est pas une cause. Dépérissement de nos villes, c'est une conséquence, départ des services publics.
Alors, nous n'avons pas travaillé sur les relations de causalité. Donc, nous avons observé des corrélations ou des liens statistiques. Et c'est difficile de parler de causalité sans faire référence à des territoires précis où on observe des enchaînements de processus. Peut-être que ce que je peux ajouter aussi, c'est que ce mouvement, en fait, de fermeture de services publics qui a démarré en France dans les années 1990, c'est quelque chose qui est arrivé non seulement en France, mais dans bien d'autres pays anciennement industrialisés. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie. Et à l'heure actuelle, nous avons une collaboration pour travailler justement sur les fermetures de lits hospitalier, une collaboration avec une chercheuse russe pour travailler sur ce même sujet. Donc c'est pas un phénomène qui est propre à la France, c'est un phénomène qui est général et que des politistes ont appelé en Angleterre et aux États-Unis le phénomène de retrenchment, qu'on a traduit parfois par le retrait ou le délaissement. Et nous avons préféré utiliser un autre terme qui est celui de rétraction. Et nous lui avons donné deux acceptions, soit la disparition totale de certains de ses services, soit la simple diminution, pour essayer de différencier en fait deux processus différents.
Nouvel appel dans ce téléphone sonne qui nous vient de Charente-Maritime, c'est Blanche qui nous appelle. Bonsoir à vous.
Bonsoir monsieur.
Nous vous écoutons.
Juste une question, nous payons nos impôts. Pourquoi l'État vend au privé nos services publics ? Nous exigeons le retour de nos services publics. Nous ne sommes pas des capitalistes, nous.
Mais vente au privé, c'est-à-dire, quels services publics ont été vendus au privé ?
Eh bien, je vous ouvre mon journal Information ouvrière du POI. Monsieur Delavoye, pourquoi ? Que faire de nos retraites ? Succession des services spéciaux ? Suppression ? Justice ? Non, privatisation.
Jacqueline Gourault, on privatise les services publics de façon sous-jacente, sans le dire ?
Non, pas du tout. Les services publics ne sont pas privatisés. Peut-être revenir sur ce que disait Madame le professeur à l'instant, sur le commerce aussi, qui est un autre domaine, mais qui fait partie des services à la population. Et c'est vrai que le déploiement des grandes surfaces dans les zones périphériques de certaines villes, y compris de villes moyennes ou petites villes, a été aussi un élément qui a engendré la disparition des commerces en milieu rural.
Et la désindustrialisation
également. La désindustrialisation également.
Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir comment on refait marche, on revient en arrière,
oui,
en quelque sorte.
Oui, exactement. Hein. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le prolongement de ce qui a été dit, le gouvernement a créé aussi une politique qui s'appelle Action Cœur de Ville, qui est en direction des villes moyennes en France pour réintroduire effectivement au cœur des villes l'habitat, les commerces, et avec des projets qui sont des projets des villes. C'est-à-dire que nous n'apportons pas des solutions toutes faites du sommet pour les plaquer sur les territoires. Nous laissons, il y a 222 villes qui profitent entre guillemets de ce programme national, mais qui laissent aux villes le choix de leur politique et de leur programme. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais naturellement, il faut en même temps veiller à ce que les mètres carrés des surfaces commerciales ne continuent pas de se développer.
Mais je reviens quand même à ce que nous disait notre premier auditeur et ce que disait Sophie Bonnet-Michel. Quand des services publics disparaissent, la poste, les centres des impôts, etc., des gendarmeries, vous l'avez dit tout à l'heure, ou des lits d'hôpitaux sont fermés, ou des tribunaux des ménages, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction après à vouloir les reconstituer au sein d'une maison des services
publics ? Non, il n'y a pas de contradiction, d'abord parce que je crois qu'il faut avoir le courage de dire aussi que, et madame l'a dit, il y a eu une évolution de la société qui s'est faite pas seulement en France mais partout ailleurs, et notamment aussi une évolution des services publics. Aujourd'hui, puisque vous parlez du trésor public ou des perceptions comme on veut, on sait très bien que aujourd'hui, on déclare sa déclaration d'impôt par Internet, qu'il y a le prélèvement à la source et que donc le trésor public doit évoluer face à cette évolution technique ou technologique comme vous voulez. Et donc il est clair que le service public sur les territoires doit évoluer avec l'évolution des techniques. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'en parallèle, il ne faut pas aussi créer de nouveaux services publics. Puisque je parle du numérique, il faut savoir qu'en France, il y a environ 20% de la population qui n'est pas en capacité d'utiliser le numérique ou de faire sa déclaration d'impôt, par exemple par Internet, eh bien, il y a aussi de nouveaux services publics qui doivent se développer, c'est-à-dire des accompagnements qui sont faits. Il y a toute une politique qui est faite aussi par le gouvernement pour ouvrir des centres qui accompagne la population, qui forme la population ou qui parfois l'accompagne, parce que on sait aussi qu'il y a des gens qui n'iront jamais jusqu'au bout de l'expérience puisqu'ils sont trop âgés par exemple et qu'il faudra toujours les accompagner. Mais c'est très important de parler de ce qu'on appelle des comptoirs de services publics, c'est-à-dire là où on apprend aussi, on accompagne les gens dans l'inclusion numérique.
Oui, pour vous parler d'inclusion numérique, il y a aussi le problème de la couverture numérique, de la fracture numérique. Bon, c'est autre chose, mais...
Ah mais non, c'est pas autre chose. C'est fondamental, vous avez raison. Parce que là aussi, il y a toute une politique qui est mise en place. Vous savez que aussi bien sur le haut débit que sur le téléphone mobile, il y a un programme de 6,5 milliards d'investis pour que d'ici 2022, la France soit entièrement couverte. Et vous savez que le déploiement se fait à une vitesse très grande.
Un nouvel appel, c'est Martial, je crois, oui, qui est à Limoges.
Oui, bonsoir monsieur, bonsoir madame la ministre. Voilà, ma question est la suivante. Est-ce qu'on reste dans une logique comptable, c'est-à-dire que tout a un coût, toute municipalité compte tendu, toute tendance politique, c'est-à-dire refaire la voie lampadaire, tant d'heures de travail, tant de coûts, etc. C'est quelque chose qui, au détriment de l'humain. Et c'est-à-dire, est-ce qu'on revient à quelque chose de justement plus humain, avec des personnels vraiment formés, et pour aller sur tout le territoire. C'est-à-dire que si on va arriver avec des grosses métropoles, avec tous les problèmes que ça va engendrer de violence...
Je vais vous interrompre, Martial, parce qu'on vous, on vous comprend pas très bien, c'est un petit peu haché. On a compris le sens de la question, Jacqueline Gourault. Pas seulement en rester à une logique comptable, une logique de coûts financiers, mais mettre de l'humain dans ces maisons de services au public, par exemple, c'est prévu.
Oui, bien sûr. Et la relation humaine et la proximité du service public est quelque chose de très important. Et je voudrais aussi préciser qu'il y a en France un réseau de mairies qui est très important. Et la mairie, c'est la première maison de service public. Et naturellement, elle remplit aussi un rôle fondamental. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, souvent, les maisons France Service qui vont se développer ou qui sont déjà développées sous la forme MSAP sont portées par des élus dans le cadre de l'intercommunalité. Et c'est très important de voir comment les élus locaux s'impliquent véritablement dans le développement des maisons de service au public. Et tout cela doit être fait, évidemment, en partenariat avec l'ensemble des mairies d'une intercommunalité.
Quelque chose à ajouter ?
Disons que la concentration métropolitaine, c'est quelque chose qu'on observe depuis une trentaine d'années, et elle a été définie par différents chercheurs comme l'accumulation de services aux entreprises, de populations, de services publics, mais la hiérarchisation aussi du système urbain et l'augmentation du nombre des villes et particulièrement des grandes villes, c'est un phénomène qui n'est pas récent non plus. Ce qui est peut-être plus récent depuis les années 1975 en France, c'est le fait qu'on observe en fait qu'il y a un certain nombre de petites villes, c'est loin d'être le cas de toutes les petites villes, qui croissent moins vite que les autres, et certaines d'entre elles même décroissent. Il y a des chercheurs aussi qui travaillent sur cette question de la décroissance urbaine. Et donc là, on a affaire à des phénomènes en fait qui sont relativement spontanée de déplacement et de mobilité résidentielle des populations qui se dirigent plutôt vers les villes où il y a du travail, qui sont plutôt des villes grandes ou moyennes.
La réponse clé, c'est le travail, bien entendu.
C'est le travail, c'est aussi l'opportunité de pouvoir changer de travail, de trouver différents emplois. C'est aussi l'opportunité de trouver différentes catégories de services privés ou publics. Ce sont des choses, effectivement, qu'offrent les villes moyennes ou les grandes villes et qu'offrent moins les petites villes.
Marie nous appelle de Lyon. Bonsoir à vous, Marie.
Oui, bonsoir. Ma question est d'ordre plus général et je voudrais poser la question suivante concernant la formation des personnels, des gens qui ne seront plus peut-être des fonctionnaires, enfin des leur formation pour renseigner le public. Parce que à la poste, quand on avait notre poste, nous, dans la ville où je suis, eh bien le postier, il savait comment fonctionnait la poste et s'il y avait un petit problème particulier, il était capable de le résoudre parce qu'il avait une formation de postier. À EDF, c'était la même chose. De toute façon, tout ferme. Alors, il n'y a plus de moyen de contacter un humain, parce que quelqu'un a parlé de l'humain, là. Mais le postier, l'humain, c'est important, hein, pour régler un problème. Et puis, d'autre part, les maisons de services publics que vous évoquez, là, est-ce que ce sont des fonctionnaires des mairies qui vont assurer le service? Et ils vont être multifonctions, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper aussi des problèmes de la poste, des problèmes des impôts, des problèmes de... Comment peut-on imaginer que ces gens-là vont être à la hauteur, parce qu'ils n'auront pas eu forcément de formation, pour aider les gens qui en ont besoin? Voilà. Et je trouve quand même scandaleux qu'on rétrécisse tous ces services. Et les gens sont face à leur ordinateur pour essayer. Il faut aussi penser aux personnes âgées, hein, oui. Parce que tout le monde n'a pas d'ordinateur. Moi, dans les villages, tout le monde n'a pas d'ordinateur. Alors, on pousse les gens à se servir de l'ordinateur. On dit que c'est fabuleux, que c'est fabuleux, que c'est fabuleux. Mais attention, il y a des générations. Moi, j'ai 73 ans. Alors bon, j'ai encore eu la possibilité dans mon travail d'utiliser l'ordinateur. Mais il y a des personnes qui ont 80 ans, 90 ans, qui n'ont pas qui n'ont pas ça en main pour. Voilà.
Très bonne question. Très bonne remarque, Marie. Jacqueline Gourault, ce problème de la formation, revient assez souvent, hein, dans les questions. Il suffit pas d'ouvrir des maisons de service au public, il faut pouvoir l'accueillir, le public, et le guider, l'accompagner.
Absolument. Alors, il faut que dans les maisons de service au public, et demain dans les maisons France Service, qu'il y ait effectivement des personnes qui accueillent et qui soient assez polyvalentes, c'est-à-dire l'arrivée, vous avez quelqu'un qui arrive, il faut qu'il y ait des personnels formés, suffisamment polyvalents pour les orienter par la suite. Je signale que dans les mairies, beaucoup de réponses sont apportées par des personnels qui sont aussi très polyvalents et on fait la même chose dans les maisons de services au public ou demain France Service. Il y a donc un enjeu de formation qui est très important et nous avons d'ailleurs un travail qui est en train de se concrétiser avec l'ensemble des élus pour ces formations. Et puis, à l'intérieur des maisons de services au public, c'est là que la dame qui vient de téléphoner doit comprendre que naturellement, les personnes polyvalentes qui sont là et qui accueillent orientent vers des gens qui sont aussi dans la maison de services au public et qui représentent, qui sont des fonctionnaires des impôts ou du ministère de l'Intérieur ou de la CNAV ou
de la CAF,
etc., de la MSA. Donc, les maisons de services au public, et c'est pour cela que le président de la République a voulu les transformer en France Service pour assurer de la qualité et de l'accueil physique. Alors, bien sûr, il pourrait aussi y avoir de la vidéo, de la visio, pardon, c'est-à-dire qu'une maison de service au public pourra être liée à un service administratif. Mais il y aura à l'intérieur au moins 9 opérateurs qui seront là, présents physiquement.
Qui va financer tout cela?
Alors, c'est financé en partie par l'État, en partie par la Caisse des dépôts et consignations et en partie par les collectivités territoriales.
Et par le privé, non, parce que votre collègue Le Cornu avait envisagé de faire appel au privé à un moment.
Alors, le président de la République, effectivement, a précisé que si des services privés voulaient s'installer dans les futures maisons de France Service, ça n'était pas un problème que des privés puissent s'installer, évidemment. Mais évidemment, il y a aussi chaque opérateur, à ce moment-là, on appelle ça le fonds interopérateur, le FIO, chaque opérateur qui vient dans la maison France Service apportera son financement.
Un nouvel appel en ligne. Avons-nous un nouveau... Non, nous avons... Ah, Gwenaël Doré est avec nous, voilà, consultant...
Oui, bonjour, oui.
Bonjour à vous, consultant chargé de cours à Paris 13. Vous avez travaillé notamment pour le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Vous avez une remarque à faire à ce que disait notamment la ministre Jacqueline Gourault sur la dématérialisation. Hein. Je crois que vous êtes un peu, disons, vigilant sur ce point.
Oui, sur la dématérialisation, je rejoins tout à fait les conclusions, enfin ou l'avis du défenseur des droits en début d'année, qui disait qu'il fallait absolument limiter les excès de cette dématérialisation et qu'il fallait en parallèle assurer de toutes les façons un niveau d'accueil physique en termes d'expertise, en termes de conseils, donc y compris donc aller au-delà de simplement un accueil. Alors, ça rejoint des préoccupations qui ont été d'ailleurs très bien exprimées par Madame la Ministre, qu'il faut il y a un problème de formation, il faut un problème également de polyvalence de ces agents. Et donc, les propos de Madame la Ministre sont très encourageants, mais restera à voir la réalité, parce que pour l'instant, le rapport de la Cour des comptes qui a été publié en début d'année, pointe du doigt les insuffisances, notamment des maisons de services publics créées par la Poste, disant que la qualité du service rendu n'est pas à la hauteur des attentes. Il y a souvent qu'un fonctionnaire a, selon un temps partiel, des ordinateurs qui fonctionnent pas toute l'année. Donc il faut absolument veiller à la formation, il faut veiller à la qualité de personnel. Donc ce sera... Il faut d'ailleurs aller dans le sens d'une proposition d'un rapport déjà un peu ancien de Madame Delga, qui est maintenant présidente de la région Occitanie, de Monsieur Morel, l'huissier, qui disait qu'il fallait créer un véritable métier dans ce domaine. Et donc il faut absolument être très très vigilant. Alors sur la question de la présence du privé, effectivement, j'avais noté la remarque de Monsieur Le Cornu disant qu'il fallait intégrer le privé. Alors il faisait référence à la Poste. Alors de toute façon, déjà la Poste, il faut rappeler que la Poste, même si elle est une société anonyme aujourd'hui, est chargée d'une mission de service public, donc elle a une fonction, elle a une mission particulière. Mais le privé on aimerait quand même être un peu vigilant sur cette question, parce qu'il ne faudrait pas que le privé vienne là pour un peu vendre des services, si vous voulez. Le privé pourrait être là simplement pour vendre des assurances, etc. Donc, il faut être très vigilant sur ce point. Alors, je voudrais faire une remarque générale sur, mais qui a été déjà très largement développée par les interlocuteurs précédents et Madame la Ministre. Je pense que sur la question de la mobilité, qu'on présente comme généralisée, il faut quand même faire trois constats. Le constat, l'effet boule de neige, de nombreuses fermetures. On ferme un service, puis un autre, un autre, un autre. Le deuxième, c'est le sentiment d'abandon qui a été exprimé par, par une auditrice de la part d'individus peu branchés. Donc, il y a des individus qui sont... Il y a environ, je crois, 35% de la population qui ne maîtrise pas encore Internet. Et puis, tout le discours actuel sur la mobilité, l'accessibilité, au détriment de la présence physique, je pense que c'est un peu exagéré, parce que tout le monde n'est pas mobile. Il y a notamment, comme l'a souligné la Cour des comptes, il y a des problèmes de déplacement, de gares éloignées, de transports interurbains qui sont pas suffisamment développés. Et sur l'exemple de l'effet boule de neige, je voudrais donner un exemple. Je suis originaire du Morbihan, et donc sur Pontivy, par exemple, une ville centrale de Bretagne intérieure, sont actuellement confrontés aux fermetures de services de la direction des finances publiques. C'est-à-dire que le service des impôts des entreprises, le service qui s'occupe de la gestion comptable des hôpitaux, va être transféré de Pontivy, donc qui est une ville au cœur du Morbihan, vers le littoral, vers l'Orient, donc qui est à 60 km. Et donc, on assiste comme ça à plusieurs fermetures. Avant, en 2017, c'était la fermeture de l'accueil au public de la sous-préfecture, la fermeture du service publicité foncière l'année précédente.
Concluez.
Je voudrais insister sur un point. Il faudrait qu'il y ait un pilote dans l'avion. Il faudrait que ces fermetures des différents services ne soient pas faites de façon unilatérale par les différentes administrations, mais qu'il y ait un pilote, et comme le recommande la Cour des comptes, que le ministère de l'Aménagement du Territoire joue un rôle d'arbitre avec en déléguant ses pouvoirs au niveau des préfectures, mais qu'il y ait vraiment un pilote. Quoi.
Merci. Voilà. Merci beaucoup, Gwenaëlle Doré, chercheur chargé de cours à Paris 13. Donc beaucoup de choses, Jacqueline Gouraud, beaucoup de contradictions notamment qui sont pointées par Gwenaëlle Doré. C'est vrai, on décentralise, enfin on délocalise des centres d'impôts, on ferme des petites lignes de train. Si on amenait de l'emploi dans le monde rural, nous dit Bernard par mail, ça coûterait moins cher que d'entasser des gens dans les grandes villes. Supprimer des services publics d'État, nous dit Laetitia, et les remplacer par des structures gérées par de grandes intercommunalités avec des emplois précaires dans la ruralité d'agents non formés. Tout ça n'est qu'une vaste fumisterie. Et puis Michel du Maine-et-Loire qui nous dit, en avril, du jour au lendemain, les trois boîtes aux lettres de la Poste ont été enlevées, arrachées des murs, sans rien dire à personne, même au maire d'ailleurs. Et nous devons faire plusieurs kilomètres en voiture pour mettre une lettre à la Poste. Voilà, donc plein d'exemples contradictoire avec ce projet des maisons de service au public.
Ben, ça veut dire qu'en écoutant ce que les auditeurs disent, et je ne mets pas en cause leur bonne foi, il faut regarder de près ce qui se passe sur les territoires. Et en général, la Poste n'enlève pas des boîtes à lettres comme ça aussi facilement. Mais enfin, bon, j'entends. Pour répondre à Monsieur Doré, j'entends ce qu'il dit. Voilà, il n'y a rien qui me choque d'ailleurs dans ce qu'il dit. Je voulais dire simplement que quand on parle de services privés, je vois bien, il y a toujours la crainte en France de la marchandisation, comme on dit. Mais si une banque ou des banques décident de mettre dans une maison de service au public ou dans une maison France Service demain un DAB, c'est-à-dire un distributeur automatique de billets, ça intéresse quand même les gens d'avoir aussi des distributeurs automatiques de billets dans la ruralité. Donc je crois qu'il faut aussi accepter que le service privé amène aussi du service au public. Ça, je crois que c'est très important. Deuxièmement, en ce qui concerne, j'ai entendu toute sa démonstration sur les impôts ou les finances publiques. Je crois que il faut être intelligent dans la présence des représentants des finances publiques sur les territoires. D'ailleurs, actuellement, effectivement, Monsieur Darmanin propose de remettre dans les intercommunalités des représentants des impôts et dans
chez,
les maisons.
Chez les buralistes.
Chez les buralistes. Non, mais les buralistes, eux sont demandeurs de nouveaux services. Mmh. Et tout ce qui apporte un service au public, c'est important. Si des buralistes vendent des billets de train, moi je dis tant mieux.
Ils vont se faire aussi collecteurs d'impôts maintenant.
Mais s'ils se font collecteurs d'impôts, et pourquoi pas? Il y a très longtemps qu'on va acheter des timbres fiscaux chez les buralistes. Très longtemps. Et je crois qu'il faut comprendre aussi que les services des impôts sont très importants dans deux périodes de l'année. Ils sont importants au moment de la déclaration des impôts et ils sont importants au moment du paiement des impôts. Et hier, j'étais dans une maison de service public formidable, pas hier, excusez-moi, c'est vendredi, dans l'Allier, à Marcilla, en Combrail, une maison de service au public, mais vraiment formidable, où le directeur des impôts de ce département de l'Allier m'expliquait que il y avait des permanences des impôts qui étaient renforcées à ces périodes de fortes demandes. Et que le reste de l'année, si vous me dites combien il y a de personnes par semaine qui vont dans une perception ou un centre des finances publiques, il y en a très peu. Il faut regarder les choses aussi avec réalité et adapter les services aux besoins. Et parfois, ça nécessite effectivement des transformations.
Alors, on va voir ce que pense de tout cela Christine Joanneau, directrice des affaires publiques du Défenseur des droits. Bonsoir madame.
Oui, bonsoir à vos auditeurs.
Alors, réaction à ce que vous venez d'entendre de la part de la ministre, qui défend une adaptation presque au jour le jour des services publics aux besoins des populations.
Oui, alors une adaptation très certainement. Moi, ce que je comprends quand même et ce que j'entends dans l'affaire des buralistes qui vont vendre des billets de train vers lesquels on pourrait payer ses impôts, autrement dit, ils seront chargés du recouvrement de l'impôt. Il me semble quand même qu'il n'y a pas exactement la même qualité de service que l'on peut trouver dans une perception. Parce que quand vous allez dans une perception, vous attendez que l'on vous donne des conseils. Or, je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir demander aux buralistes de vous renseigner ni sur certaines destinations en ce qui concerne les trains, ni la manière dont vous devez payer vos impôts ou bien si vous avez des questions à poser sur votre situation personnelle.
C'est un cache-misère pour vous, c'est un cache-misère, c'est une dégradation des services publics.
Ça peut, dans certaines situations, effectivement, si vous voulez, en tout cas, ça ne peut pas remplir les mêmes contraintes, ça ne peut pas remplir les mêmes obligations qu'un vrai service public. Alors je comprends bien que
ce seront des fonctionnaires
dans certaines situations ça peut aider, mais je ne crois pas qu'on est dans la même qualité de service. Alors moi je voudrais venir, j'ai entendu beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur la question de la dématérialisation des services publics. C'est vrai que c'est une transformation en profondeur de nos services, mais l'essentiel, c'est quand même que la qualité et l'amélioration du service rendu aux usagers soient évidemment au rendez-vous dans cette transformation. Or, Monsieur Doré disait tout à l'heure que le Défenseur des droits avait rendu un rapport sur la dématérialisation des services publics. C'est vrai, au début de l'année, on peut le retrouver sur son site internet. Et on avait quand même constaté, comme l'a dit d'ailleurs une de vos auditrices, que cette dématérialisation des services publics, elle laisse quand même sur le bord du chemin beaucoup de gens. Non seulement les gens qui n'ont évidemment pas de couverture Internet, certains de vos interlocuteurs l'ont dit, et même à marche forcée en ce qui concerne l'installation de réseaux Internet, on est loin du compte. Et puis, au-delà de ça, il y a des personnes qui effectivement ne savent pas se servir d'Internet, oui. Et même lorsqu'ils ont Internet, il y a un certain illettrisme numérique qui fait que nos concitoyens, nos usagers des services publics ne comprennent pas.
Alors,
toujours
pour être précis, dans son rapport, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, disait que la dématérialisation peut être positive, même positif, si on ne laisse personne de côté, si elle s'accompagne en quelque sorte d'un maintien minimum des services publics.
Absolument, absolument. Et ça, c'est très important. Cet accompagnement, il doit être vraiment renforcé, parce que aujourd'hui, en ce qui concerne les maisons de service au public, dont j'entendais effectivement parler, c'est vrai que la situation est quand même très hétérogène, ça a été souligné. Il y a un besoin probablement de professionnaliser un peu, davantage en tout cas, les personnes qui travaillent au sein de ces services, qu'il y ait un maximum de services, que ce soit des organismes sociaux, les impôts, Pôle emploi, etc., qui soient présents dans ces services. Or, on n'y est pas. Il y a certaines maisons du service au public où ça se limite quand même à avoir un ordinateur, un jeune du service civique qui va essayer de renseigner la personne sur le fonctionnement de l'ordinateur, mais en aucune façon ça ne peut évidemment remplacer le vrai accompagnement qu'il est nécessaire d'adopter pour que les gens puissent avoir accès à leurs droits. Parce qu'au final, l'essentiel, c'est que les gens réussissent, les usagers réussissent à obtenir leurs droits. Nous, on voit bien chez le défenseur des droits que les personnes, lorsqu'elles viennent porter réclamation auprès du défenseur, elles viennent d'abord se plaindre de ce qu'elles n'ont pas accès à leurs droits. Elles n'ont pas accès à une prestation, elles n'ont pas accès à un droit quelconque. Et finalement, au travers de ça, on s'aperçoit que c'est la dématérialisation qui peut poser problème.
Et d'ailleurs, d'ailleurs Christine Joanneau, l'écrasante majorité des réclamations que vous recevez sont liés au service public.
Alors, on a le défenseur des droits traite 95 000 réclamations, c'est ce qu'il a fait en 2018, et parmi ces 95 000 réclamations, il y en avait plus de 56 000 qui concernaient des défaillances du service public, hein, puisque sa mission, c'est de défendre les droits et libertés des usagers, des services publics au sens élargi, de l'État, des organismes sociaux, et voilà. Et donc pour ça, non seulement, évidemment, nous traitons au niveau du siège à Paris, parce qu'on peut saisir le défenseur tout à fait gratuitement, c'est très facile, y compris sur son site internet, mais nous avons aussi un réseau donc de délégués qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Nous en avons plus de 520 à l'heure actuelle et qui reçoivent dans des 875 lieux de permanence.
Merci de le rappeler, Christine Joanneau, directrice des affaires publiques du Défenseur des droits. Jacqueline Gourou, une réaction?
Une réaction, c'est la raison pour laquelle Madame a soulevé les insuffisances ou ci ou là. C'est la raison pour laquelle nous voulons transformer les maisons de services au public en qualité et créer donc le label France Service. Deuxièmement, elle-même parle des revendications ou des plaintes ou auprès du défenseur des droits, par Internet. Tout le monde aujourd'hui utilise Internet et c'est absolument nécessaire effectivement d'accompagner ceux qui ne sont pas en mesure d'utiliser Internet. C'est ce que nous faisons et c'est ce que le gouvernement fait. Il y a même un secrétaire d'État qui est en charge de ce domaine pour accompagner et l'inclusion numérique pour ceux qui sont en capacité d'avancer. Et puis, on sait qu'il y a toujours une partie de la population qu'il faudra physiquement accompagner. Et cela, l'État est en mesure de l'assumer.
Mais d'où vient cette suspicion? Le projet est beau, a priori, en théorie, mais d'où vient ce fait que pas grand monde n'y croit? Parce que parallèlement, comme on l'a déjà dit, beaucoup de services publics s'en vont, délocalisent.
C'est qu'ils sont beaucoup partis et qu'il faut donc ramener au plus près du territoire le service public. D'ailleurs, ce sont les préfets de chaque département qui sont en charge de ce dossier France Service et qui vont pouvoir faire en sorte que chaque maison existante soit évaluée. Et soit elles sont en capacité de monter en gamme ou elles sont déjà en gamme et elles auront le label France Service, soit il faudra qu'elles assume le fait de développer davantage de services pour être à la hauteur de ce que vous nos concitoyens attendent.
Vous disiez tout à l'heure, Sophie Baudet-Michel, que les services publics, finalement, ont résisté plus longtemps que les commerces ou que les petites industries. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être le contraire? Est-ce que le retour des services publics en milieu rural peut faire revenir des commerces, des activités?
Alors, je pense que... Ce que j'ai voulu dire, c'est que les services publics ont commencé à se retirer de certains espaces à partir des années 1990. Et peut-être que ça a été parfois accéléré par certaines politiques publiques, notamment la révision générale des politiques publiques. Il y a l'exemple de la réforme qui a été conduite par la garde des Sceaux Rachida Dati, qui a conduit à la fermeture de nombreux tribunaux.
Ah oui, parce qu'on supprimait beaucoup de fonctionnaires en plus à l'époque, et c'est pas fini.
Oui, et dans la même période, en fait, nous, on a regardé des années 2000 aux années 2016, il y a eu aussi des fermetures de lits hospitaliers qui ont touché inégalement les villes. Et tout à l'heure, Gwenaëlle Doré évoquait les effets boule de neige. Je pense qu'on peut peut-être retenir qu'il y a trois types de fragilité, en fait, pour les villes qui sont touchées par des fermetures. Et peut-être aussi par les communes rurales, il y a un premier effet qui est l'éloignement pour un certain nombre de résidents de ces services publics. Et par exemple, pour les tribunaux, il y a un certain nombre de villes qui se sont trouvées plus éloignées qu'elles ne l'étaient des tribunaux. C'est le cas par exemple de Barcelonnette ou de Châteaubriant, qui sont désormais à plus de 60 minutes d'un tribunal. C'est aussi le cas de certains hôpitaux. Donc il y a un effet d'éloignement. Il y a un deuxième effet
rapidement.
Sur la centralité, en fait. La fermeture d'un service public, ça va rendre la ville moins attractive et donc elle va être moins fréquentée. Et il y a un troisième effet qui est celui qui a été évoqué, l'effet boule de neige.
Voilà, merci. On pourra en parler des heures, évidemment, de la ruralité. Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, merci beaucoup.
Merci.
Sophie Baudet-Michel, maître de conférence en géographie à l'Université Paris Diderot. Merci beaucoup.
Merci.
Était en ligne avec nous Christine Joanneau, directrice des affaires publiques du Défenseur des Droits. Merci à elle, à la technique. Ce soir, il y avait Ludovic Asselot et Florent Bujon. Merci à Anne-Sophie Ladonne pour la réalisation, Pierre de Serre et Emma Ferret pour la préparation de cette émission et Mathilde Sour pour la documentation.